Alors ici, nous sommes au kilomètre 250 à partir de Source-Seine. Nous sommes à Samois et honnêtement, c'est très joli. Nous sommes dans une île avec la Seine qui est assez large, un petit bras qui est derrière nous avec des villas, une écluse un peu plus au nord, des péniches, frères loup et une péniche hollandaise, et devant une sorte de parc gigantesque avec une Seine qui coule majestueusement comme un fleuve d'Amérique. C'est vraiment très beau. Pour y parvenir, nous avons traversé un massif forestier qui est l'extrémité du massif de Fontainebleau, avec des bouleaux, avec des sables et avec des rochers. Et nous avons vu finalement deux types de paysages de Seine très différents. Nous avons vu, au cours de notre escapade précédente, quand nous étions à Bray-sur-Seine, nous avons vu une sorte de Seine russe, grande, avec des bouleaux assez austères. Etc. Ici, c'est une sorte de Seine américaine, c'est une sorte de Mississippi. C'est grand, c'est gigantesque, l'eau s'écoule paresseusement et majestueusement, et c'est américain aussi, non seulement à cause de l'air américain du fleuve, mais aussi parce que quand le fleuve se resserre et qu'on voit les maisons, les guinguettes, les péniches, eh bien on a l'impression de voir une sorte de France vue par l'œil d'un Américain, presque une petite France de caricature absolument charmante. Ici, entre Samois et un village qui est juste à côté, qui s'appelle Thomery, s'élèvent deux bâtisses tout à fait étonnantes. Le premier petit château était celui de Rosa Bonheur, qui s'est exilée à Bie pour fuir la cour de Napoléon III et qui peignait des animaux. Et au fond, elle était contente de s'être installée à Bie parce qu'elle avait des animaux sous la main, elle leur a fait une sorte de crèche laïque où voisinait le bœuf et l'âne, ce qui fait qu'elle pouvait se rendre dans la crèche et peindre tout ce qu'elle voulait. On dit que certaines têtes de lion peintes par Rosa Bonheur ont servi pour la fabrication du blason de cette association étrange, à la fois mondiale et provinciale, qui s'appelle le Lions Club. Rosa Bonheur, quant à elle, s'habillait le plus souvent en homme et bénéficiait pour ce faire d'une permission de travestissement signée en 1857 par le préfet de police de Paris. Et c'est dans le château de Bie, qui est situé à quelques kilomètres d'ici, qu'elle a reçu en 1889 William Cody, dit Buffalo Bill, qui était au fond le grand massacreur de ses modèles favoris et qui lui offrit une panoplie de Sioux qu'on peut voir maintenant au musée du village. Moins résistante que Buffalo Bill, elle est morte d'une congestion pulmonaire après une promenade en forêt et laisse une œuvre où, comme disait Clarty, un grand critique de l'époque, les bœufs sont plus réussis que les hommes. À Vollard, qui lui demandait son avis, Cézanne avait dit « Oui, Rosa Bonheur, c'est horriblement ressemblant. Une toile de Rosa Bonheur assourdie toujours par ses beuglements silencieux, on ne s'en lasse pas. » Juste à côté, en face, à Thomery, il y a un petit château, c'est pour ça que je parlais aussi du genre américain, qui s'appelle La Rivière. On croirait un peu Monticello, au débouché d'une courbe où la Seine très large paraît creuser une forêt du Nouveau Monde. Et l'ensemble évoque Jefferson, qui habitait Monticello, les Virginiens et la Déclaration des Droits. Pourtant, cette maison a appartenu au comte Greffule, dont la femme a inspiré le personnage d'Oriane de Guermantes dans La Recherche du Temps Perdu, et après à Fabrelus. Et c'est là où en 80 ou 90, j'ai pu rencontrer la gauche moderne, la gauche rocardienne, qui m'était jusque-là demeurée complètement inconnue. Dans ses souvenirs de 48, Tocqueville écrit à propos des députés de la montagne pendant la Révolution de février « Ce fut pour moi comme la découverte d'un nouveau monde. On se console de ne point connaître les pays étrangers en pensant qu'on connaît du moins son propre pays, et l'on a tort, car il se trouve toujours dans celui-là même des contrées qu'on n'a point visitées et des races d'hommes qui vous sont nouvelles. En rencontrant les rocardiens, j'ai eu exactement cette impression-là. » Et puis, à Samois, où nous sommes maintenant, tout près de l'endroit où Vincent et moi venons de déjeuner, d'une pizza absolument caractéristique de cette partie de la Seine, à Samois, donc, il y avait un petit port où Georges Simenon a amarré une péniche qui s'appelait l'Ostrogo, qu'il avait achetée en 1930 après avoir revendu un bar dont il s'était rendu propriétaire au peintre Fujita. Et c'est à Samois que Maigret est né. Le premier Maigret connu, qui est signé du pseudonyme que Simenon utilisait à l'époque, qui était Sim, s'appelle La Femme Rousse et se déroule à Samois. Maigret n'est pas vraiment lui-même, il le deviendra un peu plus tard. Et curieusement, c'est aussi à Samois que se passe la dernière enquête de Maigret dans L'Écluse numéro 1, un roman publié en 1933. Alors évidemment, ça n'est pas la dernière enquête de Maigret. Il a écrit à l'époque la dernière enquête de Maigret. La dernière enquête de Maigret se passera en fait bien plus tard. Ce livre, tout entier brouillé par une brume de Seine, présente une collection de psychopathes qui se déchirent entre meurtre et suicide dans une pénombre douloureuse. Maigret n'est pas entièrement lui-même, il ne se prénomme pas encore Jules, il se prénomme Joseph. Il n'habite pas boulevard Richard Lenoir, mais boulevard Edgar Quinet, et à 6 jours de la retraite paraît curieusement malhabile et inexpérimenté. Mais il est déjà un bloc de compassion, et le comprendre et ne pas juger, dont Simenon avait fait son ex-libris, se comprendre et ne pas juger, sur lequel on voit un homme nu, C'est la devise de Maigret et c'était aussi la devise de Simenon. Une devise de compassion parce que chez Simenon, il n'y a que des victimes, y compris les criminels. Le monde les écrase tous, les broyant dans des structures mauvaises qui ne sont pas réformables et qui leur ont faussé l'esprit et le cœur. On le voit, ce détail très très significatif, que tous, du clochard au bourgeois, habitent en termites des bâtiments trop grands pour eux, qu'il s'agisse des maisons de Samoa que nous voyons autour de nous, ou du château de Saint-Fiacre, ou même d'un pont sous la Seine. Simenon a dû faire cette expérience, au fond. Dans la succession de ces résidences étonnantes dont il avait fait des arches où abritaient ses familles et son angoisse d'écrire, jusqu'au monstrueux bunker d'Épalinges dans le canton de Vaud, qui s'en va aujourd'hui par plaques, rongé par la mousse, et toutes ces demeures, au fond, il les a abandonnées les unes après les autres dans la poursuite d'un réconfort qui ne venait pas. Et lui aussi, au fond, a dû, comme ses personnages, souffrir de ses vêtements trop grands. Il en est resté cet homme nu, l'espoir d'un salut jamais évoqué, promis à nos destinées d'insectes et dont les trajets se perdent dans le noir de la mort. Une œuvre immense, une des plus grandes œuvres françaises, écrite en langue française du XXe siècle. Et la présence à nos côtés, là, sur les bords de la Seine, à deux pas de l'endroit où était amarrée la péniche L'Ostrogo, du commissaire Maigret. Mais ici, nous pouvons, comme Simenon, revêtir le costume d'un de ces bateliers qu'il a si bien décrit et qui, venant du Nord, vont vers la ville Lumière, la ville de tous les vices et la ville de tous les drames. Un verre de Genièvre après l'autre.